There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants. Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Où est-il passé le printemps? Avez-vous vu le printemps, madame, monsieur? Et oui, madame, monsieur, nous entendons actuellement le talentueux Grégory Charles, chanteur, animateur, radio, télé, danseur, musicien, auteur, compositeur, interprète québécois. Bonjour Printemps, présenté par Francophonie en Fête, qui marquera le retour du beau temps, un spectacle virtuel, en direct, absolument exceptionnel, le samedi 29 mai à 20h, mettant en vedette Grégory Charles, le même spectacle en reprise le dimanche 30 mai à 20h. Un répertoire qui vous entraînera dans un survol des chansons les plus connues des années 60 à aujourd'hui. Alors, achetez vos billets en ligne immédiatement en cliquant sur francophonieenfête.com. Bonjour Printemps, un spectacle virtuel en direct, et oui, avec l'homme orchestre, l'artiste parfaitement bilingue et issu de la diversité, Grégory Charles, le samedi 29 mai à 20h et en reprise le dimanche 30 mai à 20h. Des liens d'accès valides à deux participants de notre campagne, le son de votre ville, The Sound of Your City, pour un visionnement en direct en famille ou entre amis le soir de l'événement. Si vous avez déjà fait un don à Popourri Show, veuillez nous envoyer immédiatement vos coordonnées à popourri@cut.fm. Et qui sait? Bonjour Printemps, un tout nouveau concept, un tout nouveau volet de l'offre culturelle de Francophonie en Fête. Francophonieenfête.com et CUTFM, la radio comme je l'aime.
Je le déplore.
Merci.
11 morts. Mais pardon, 11 morts, un enfant. Côté palestinien, 130 morts, 40 enfants. D'accord ? C'est pas une guerre asymétrique. C'est pas un conflit d'égal à égal. Non, c'est pas une réplique.
Je pense pas qu'on puisse.
C'est pas une réplique. La Palestine, les Palestiniens, c'est un peuple qui lutte pour un droit fondamental, celui de l'autodétermination, de la souveraineté et du respect du droit international. Aujourd'hui, il y a plusieurs résolutions de l'ONU qui condamnent la colonisation et qui condamnent les expropriations, à tel point qu'une attendez, il faut écouter ça. Human Rights Watch, qui est pas une organisation à la base, c'est qui est pas une ONG, qui est particulièrement proche de la Palestine et des Palestiniens, qui accuse dans son dernier rapport de crimes d'apartheid
l'État israélien.
Donc évidemment, ces gens, ils veulent se mobiliser. Vous allez pas les interdire?
One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine. Give it up to Sama. Woo!
Et oui, nous sommes en compagnie du DJ, la techno queen palestinienne Sama Abdulhadi. Elle était au Boiler Room Palestine. Le conflit israélo-palestinien suscite colère, indignation, et nous avons assisté justement des manifestations à travers le monde récemment, de Paris à New York, en passant par les grandes capitales en Afrique, même à l'île Maurice où il y a eu des arrestations. Bagarre entre un manifestant pro-Israël et pro-Palestine à Montréal et Toronto. Quel a été l'élément déclencheur de cette nouvelle flambée de violence qui a fait jusqu'à maintenant des centaines de victimes, y compris beaucoup d'enfants? Ici Eric Kader. Chers amis de la radio, où que vous soyez à travers la planète, je vous souhaite bien le bonjour. Mille merci pour vos dons, votre grande générosité lors de notre dernière campagne de financement Le Son de votre ville. Grâce à vous, nous nous approchons tranquillement mais sûrement du montant de notre objectif, c'est-à-dire les 100 000 dollars. Nous avons amassé à ce jour près de 70 000 dollars. Un grand merci à vous tous. Abonnez-vous à CUTFM, la radio communautaire de l'Université de Toronto. La radio associative est financée par ses auditeurs. Faites un don si vous ne l'avez pas fait encore. Pour une modique somme de 89,50 $, vous entrez automatiquement dans notre tirage au sort pour deux vélos électriques d'une valeur de 1 800 $ chaque. Eh oui, visitez notre site immédiatement. www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Une fois de plus, merci à nos collaborateurs, à nos partenaires. Et merci aussi à Francophonie en fête qui nous offre des billets pour le prochain concert de Grégory Charles le 29 et le 30 mai. Eh oui, alors envoyez-nous un message si vous souhaitez assister à ce spectacle virtuel popourri@cut.fm. Une fois de plus, merci à nos nouveaux membres et donateurs, donatrices. Un merci spécial à notre invité qui était tout au long de l'émission des nôtres la semaine dernière, Clément Yonta Ingouné, enseignant et membre fondateur de l'Association ontarienne des professionnels de l'éducation issus de la diversité. Un grand merci. Bienvenue à notre magazine de la francophonie, Popourri Show, 34 ans déjà. Et vous pouvez nous écouter jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Abonnez-vous à notre page à Facebook, Twitter, pour télécharger nos émissions tout au long de la semaine ou de l'année, où que vous soyez, popourrichaud.com. L'ingénieur du son, DJ Devera, production et animation, Eric Kader. Parmi nos invités aujourd'hui et parmi nos partenaires, Dr Emmanuelle Lepuchon, Wortzmann, elle est directrice du CREFO. Et aujourd'hui, elle nous présente son tout dernier livre, Défis et richesses à des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Un revenant, maître Peter Biro, auteur, homme d'affaires, qui nous présente une nouvelle chronique à consonance politique à ne pas rater. Merci à nos médias partenaires, à TV5 Monde, RFI, France 24, la maison d'édition Prise de Parole, qui nous présente des petits trésors littéraires de l'Ontario et du Canada. Au menu aujourd'hui, après la crise à l'université Laurentienne, climat de travail toxique, conflit d'intérêts et éthique chez TFO, la télévision française de l'Ontario. Réaction des auditeurs, à quoi sert TFO? Avons-nous vraiment besoin de TFO? Pour qui, pourquoi et par qui? On en parle. 1981-2021, François Mitterrand, 40 ans après, que reste-t-il de l'héritage mitterrandien? Une collaboration de RFI. Refonte de la loi 101 au Québec. Ça y est, le Québec a déposé la semaine dernière son projet de loi 96 qui vise à faire du français la seule langue officielle et langue commune du Québec. Quel impact pour les francophones hors Québec? Et notre coup de cœur, oui, d'un des nominés francophones qui participera au prochain prix Juno Awards, prévu le 6 juin prochain, à Radio-Canada, Le Diable à 5 debout. C'est un groupe de l'Outaouais, dans l'Est ontarien. Et oui, nominé dans la catégorie groupe traditionnel, l'album de l'année. Et une nouvelle chanson qui cartonne en ce moment en France, en fait partout en Europe, en Afrique, même dans les Antilles, Libya de Tikenja Fakoli. Et oui, un quart de siècle de musique, d'engagement, de triomphe, de coups durs aussi. Tikenja Fakoli ne lâche rien. Il nous revient avec Libya vers la fin de cette émission. Et pour vous aider à vous détendre comme il le faut en cette longue fin de semaine, j'ai le bonheur, l'honneur de vous présenter l'incontournable Laurent Gérard qui imite avec malice les déclarations choc et l'éthique des célébrités. Et si François Mitterrand était encore parmi nous, quels seraient, d'après vous, ses conseils à Emmanuel Macron à découvrir? Mais pour tout de suite, les buzz de la semaine. « De quoi l'été pandémique sera-t-il fait? Le Québec est en avance pour une réouverture prudente. L'Ontario discute en coulisses d'alléger les restrictions sanitaires dans certains secteurs avant le 2 juin prochain. Selon plusieurs experts de la santé, l'Ontario et le Québec ont intérêt à y aller par étapes en autorisant d'abord des activités extérieures. Covid-19 en Europe, un retour à la normale variable. La France a ouvert ses terrasses mercredi 19 mai. Dossier francophonie, tel que discuté avec nos invités la semaine dernière, il y a bel et bien un malaise dans la francophonie ontarienne et canadienne. La multiplication des crises au sein des institutions, y compris TFO et les organismes communautaires francophones, font sourciller plusieurs chercheurs et universitaires. François Charbonneau, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, tente de répondre dans un article publié récemment dans la Revue internationale des francophonies. Il écrit et je cite, « La dépendance à des associations porte-parole des francophones au financement du gouvernement fédéral nuit-elle à leur indépendance ?» C'est la question à laquelle professeur François Charbonneau tente de répondre. Sur la scène internationale, à l'initiative du président Emmanuel Macron, un forum international a réuni des représentants des pays africains, européens et américains, mais aussi d'organisations internationales, ainsi que des patrons d'entreprises françaises. L'objectif officiel, la France au chevet du Soudan, qui a besoin d'attirer des investisseurs étrangers pour une vraie relance. Élection en Tunisie, la cause palestinienne, une priorité du nouveau président. Le Mali commémore les 30 ans de la mort de l'écrivain Amadou Mbatepa. Aujourd'hui, et malgré le caractère national, très peu de Bamakois sont au courant des œuvres littéraires de ce géant, de ce célèbre écrivain. Excellente émission du magazine de Radio France Internationale, 7 milliards de voisins. La pandémie qui sévit au niveau planétaire laisse des séquelles chez pas mal de personnes et RFI s'intéresse au sort des jeunes, des étudiants francophones avec une émission ayant pour thème « Comment les jeunes diplômés changent la société ?» Comment ces jeunes diplômés vivent-ils? Quelles sont leurs valeurs? Peuvent-ils influencer la société? Plusieurs invités extrêmement compétents étaient au rendez-vous. Une émission à réécouter absolument. Au Québec, si le projet de loi 96 qui vise à la réforme de la loi 101 au Québec a été bien accueilli par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, l'avocat et constitutionnaliste Julius Gray estime que cet appui est une erreur monumentale. Selon lui, il serait plus avantageux de maintenir Montréal comme ville française, mais relativement bilingue, et avoir un pays où les deux langues sont traitées sur un pied d'égalité. Projet de loi, qu'en est-il exactement? Reportage de TV5 Monde, suivi du magazine L'Accent des Autres et nos médias partenaires. Reportage.
Comment mieux protéger la langue française quand on est enclavé dans un vaste monde anglophone? Au Québec, le gouvernement de François Legault vient de dévoiler un projet de loi très attendu, celui sur la réforme de la loi 101, texte qui protège la langue française. Au Québec, on retrouve en direct de Montréal Catherine François, notre correspondante. Bonjour Catherine, que contient au juste cette loi?
Alors Mohamed, c'est une réforme majeure de la loi 101 qui a été présentée devant l'Assemblée nationale ce matin. Une réforme pour faire du français la seule langue officielle au Québec. Cinq mesures majeures, cinq mesures phares que je vous résume ici. Tout d'abord, la création d'un ministère de la langue française au sein du gouvernement québécois. Ensuite, la création d'un poste de commissaire à la langue française qui va veiller à l'application de cette nouvelle loi. La troisième mesure, c'est la limitation du nombre d'étudiants francophones dans les cégeps anglophones de la province. Les cégeps, ici, ce sont des établissements d'enseignement supérieur entre les lycées et l'université. La quatrième mesure, c'est que cette nouvelle loi va s'appliquer aux entreprises de plus de 25 employés pour offrir un cadre de travail en français à leurs employés. Et la cinquième mesure, eh bien, ça va être la mise en place d'un guichet unique des programmes de francisation pour tous les nouveaux arrivants qui viennent s'installer au Québec. Alors, Mohamed, beaucoup de réactions, bien sûr, déjà qui commencent, des pour, les contre, les c'est pas assez, c'est trop. Évidemment, on va en entendre beaucoup parler. Ce qu'on sait déjà, c'est que les partis d'opposition, eux, conviennent de dire qu'effectivement, il en faut plus pour protéger la langue française au Québec. Est-ce qu'ils vont appuyer ce projet de loi? Ça sera à voir au cours des prochains jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup parler de langue française ici au cours des prochains.
Et on suivra tout cela avec vous, Catherine, en direct de Montréal. Merci à vous.
L'accent des autres vous accompagne une nouvelle fois. Voici, comme chaque semaine, l'actualité des médias francophones publics avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, RFI et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui au Québec avec vous, Benoît Audet, parce que le gouvernement a déposé un projet de loi destiné à renforcer la langue française.
Oui, et cette initiative ambitieuse, d'abord destinée au Québec, a des ramifications jusque sur la scène fédérale.
Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire avec vous, Nicolas Sûr. Le pays vit à l'heure des délestages électriques.
Oui, des coupures de courant de 6 heures chaque jour qui sont programmées en fonction des quartiers. Il s'agit de faire face à un déficit de production particulièrement important depuis un mois.
Les suites de la pandémie en Belgique d'abord, Jacques Cremers. Les différents gouvernements ont décidé de lever une série de restrictions étape par étape. C'est ce que de nombreux observateurs ont appelé le comité de concertation de la liberté.
Oui, rupture avec les restrictions, rupture avec l'extrême prudence. Mais si l'épidémie recule et si la vaccination s'accélère pour certains experts de la santé, ces décisions sont aussi un pari sur l'évolution positive de l'infection.
En Suisse, le certificat Covid fait débat. Seul son usage pour voyager semble faire l'unanimité, Pierre-Anne Chauffard.
Le document est promis pour fin juin et c'est vrai que les critiques fusent sur son potentiel rôle de sésame pour assister à un concert ou pénétrer dans un stade de foot.
Enfin, près d'un tiers des Français ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid, mais ce qui inquiète désormais la communauté médicale, Éric Delvaux, c'est le retard des vaccinations contre d'autres maladies.
Oui, toute cette dynamique anti-Covid a fini par éclipser les rappels de vaccins, par exemple contre la diphtérie, tétanos et polio. Un constat d'autant plus alarmant chez les publics vulnérables comme les transplantés.
Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans l'accent des autres. C'est la plus importante réforme de la charte de la langue française. Elle a été lancée cette semaine au Québec. Cette charte, qui vise à mieux protéger et promouvoir le français, avait été adoptée en 1977 ou 77 par le gouvernement souverainiste de René Lévesque. Mais de nombreux défenseurs du français trouvaient qu'elle n'avait plus assez de mordant pour freiner le recul du français face à l'anglais. Benoît, le Premier ministre François Legault a répondu à leur appel cette semaine.
Oui, ce projet de loi de plus de 100 pages contient de nombreuses mesures destinées à renforcer la défense de la langue française. On écoute le ministre responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette.
Je pense que c'est une grande journée pour le Québec, puis on va faire en sorte que la langue française redevienne la langue commune au Québec. Et je pense que c'est une avancée significative pour tous les Québécois aujourd'hui.
Voilà, le ministre Simon Jolin-Barrette. Alors Benoît, quels sont les objectifs de ce projet de loi?
Le gouvernement veut faire du français la langue commune du Québec, renforcer son statut dans toutes les sphères de la société. On veut aussi que l'État québécois soit exemplaire dans l'utilisation du français. Et enfin, on annonce la création d'un ministère de la langue française avec des pouvoirs élargis.
Et puis enfin, le gouvernement du Québec a aussi réservé, Benoît, une surprise de taille au gouvernement fédéral.
Oui, Québec veut inscrire dans la Constitution fédérale la reconnaissance de la nation québécoise et celle du français comme seule langue officielle du Québec. Cette question a déjà donné lieu à des déchirements épiques au Canada qui avaient presque mené à l'éclatement du pays. On en est encore loin, très loin, mais ça vous donne une idée de la portée de cette initiative.
Merci à tous les partenaires. C'était l'actualité des médias francophones publics avec Radio-Canada, RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. On se retrouve, si vous le souhaitez, bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Les rumeurs vont bon train à Ottawa sur d'éventuelles élections générales. Selon des experts, aucun parti ne devrait toutefois se risquer à faire tomber les libéraux en période d'une pandémie afin de ne pas déplaire les électeurs. Qu'est-ce qu'un gouvernement majoritaire? Qu'est-ce qu'un gouvernement minoritaire? Quels sont les avantages d'un gouvernement minoritaire? Par gouvernement minoritaire, doit-on s'attendre à un gouvernement qui doit être toujours aux aguets et qui doit rendre compte de ses actions au peuple? Un gouvernement super transparent. Je vous invite, madame, monsieur, à écouter la chronique d'un revenant, maître Peter Bureau, homme d'affaires, auteur et correspondant spécial de Popourichaud.
La capacité d'éviter la responsabilité,
l'obligation de rendre des comptes. Et les conséquences semblent être la marque de fabrique des gouvernements soi-disant démocratiques modernes à notre époque. Cette responsabilité implique tout d'abord une comptabilité au Parlement ou aux assemblées nationales et la possibilité ou bien de conserver ou de perdre la confiance du Parlement ou des assemblées nationales par le biais d'un vote de confiance ou de censure. Dans l'éventualité où le gouvernement perdrait un vote de confiance, ça déclencherait une élection. Il n'y a eu que 6 votes non-confiance réussis dans l'histoire du Canada, le dernier ayant eu lieu en 2011 sous le gouvernement minoritaire de Stephen Harper. La plupart des votes de non-confiance sont rejetés, comme le plus récent d'octobre 2020, lorsque les conservateurs ont présenté une motion spéciale demandant la création d'un comité spécial pour surveiller et contrôler les dépenses de coronavirus. Il convient de noter que les votes de confiance n'ont jamais réussi quand un gouvernement majoritaire est au pouvoir. Ainsi, les gouvernements ont réussi en grande partie grâce à une manipulation habile du règlement intérieur du Parlement à éviter le genre de responsabilité que le Parlement avait été initialement conçu pour assurer dans le cadre du système de Westminster et qui est apparu pour la première fois au Canada à l'époque d'avant la Confédération dans les années 1830 et 1840. À notre époque, les gouvernements semblent toujours se revêtir de Teflon, à savoir la promesse que les élections fédérales de 2015 seraient les dernières élections ultra-périphériques, la promesse de 2015 de mettre fin aux commandes d'ébullition de l'eau pour toute communauté des Premières Nations et de garantir à tous une eau potable, propre et salubre. Les dénégations du Premier ministre et des ministres et collaborateurs en 2018 et 2019, selon lesquels il y avait eu ingérence indue dans le pouvoir discrétionnaire de poursuite du procureur général dans l'affaire SNC-Lavalin. La prorogation du Parlement l'été dernier afin de faire échouer le travail d'un comité parlementaire chargé d'examiner le scandale We Charity. Celle-ci n'était pas pire que la prorogation effectuée par Stephen Harper en 2008 lors d'une vote non-confiance menacée par l'opposition. Il n'y a guère de gouvernement en Occident qui soit sans défaut à cet égard. Mais ce qui est plus troublant, ce n'est pas la façon dont les gouvernements se comportent, mais le fait que les citoyens semblent imperturbables. Quelle sorte de scandale pourrait susciter la colère des partisans de tous bords et des citoyens en général? À en juger par l'influence politique continue de Donald Trump aux États-Unis après l'insurrection du 6 janvier au Capitole, il est difficile d'en imaginer une. Une chose est certaine, un retour à un gouvernement responsable, authentique et significatif n'est pas prévisible sans une culture civique qui l'exige. Peter Biraud, correspondant spécial, le Potpourri Show, CIUT FM.
Lors des prochaines élections consulaires, simplifiez-vous la vie avec le vote par Internet. Quel que soit votre lieu de résidence, vous pourrez voter du vendredi 21 jusqu'au mercredi 26 mai pour élire vos conseillères et vos conseillers des Français de l'étranger. Que vous soyez sur votre canapé, en déplacement ou loin de votre bureau de vote, votez depuis votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Rendez-vous sur le portail de vote dédié, accessible depuis le site de France Diplomatie, à compter du 21 mai. Connectez-vous grâce à l'identifiant et au mot de passe envoyé par l'administration quelques jours avant l'ouverture du portail de vote. Cette modalité de vote est fiable, rapide et pratique. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'on n'habite pas en France que l'on n'est pas représenté. Alors rendez-vous du vendredi 21 au mercredi 26 mai pour voter par Internet.
Yeah. Moi je suis qui ? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together. Encore.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
CIUT 89.5 Toronto.
Où est-il passé le printemps? Avez-vous voulu le printemps, madame, monsieur? Et oui, madame, monsieur, nous entendons actuellement le talentueux Grégory Charles, chanteur, animateur, radio, télé, danseur, musicien, auteur, compositeur, interprète québécois. Bonjour Printemps, présenté par Francophonie en Fête, qui marquera le retour du beau temps. Un spectacle virtuel, en direct, absolument exceptionnel, le samedi 29 mai à 20h, mettant en vedette Grégory Charles. Le même spectacle, en reprise, le dimanche 30 mai à 20h. Un répertoire qui vous entraînera dans un survol des chansons les plus connues des années 60 à aujourd'hui. Alors achetez vos billets en ligne immédiatement en cliquant sur francophonieenfête.com. Bonjour Printemps, un spectacle virtuel en direct, et oui, avec l'homme orchestre, l'artiste parfaitement bilingue et issu de la diversité, Grégory Charles, le samedi 29 mai à 20h et en reprise le dimanche 30 mai à 20h. Des liens d'accès valides à deux participants de notre campagne, le son de votre ville, The Sound of Your City, pour un visionnement en direct en famille ou entre amis le soir de l'événement. Si vous avez déjà fait un don à Popourri Show, veuillez nous envoyer immédiatement vos coordonnées à popourri@cut.fm. Et qui sait? Bonjour Printemps, un tout nouveau concept, un tout nouveau volet de l'offre culturelle de Francophonie en Fête. Francophonieenfête.com et CUTFM, la radio comme je l'aime.
Le plan de vaccination de l'Ontario contribue à freiner la propagation et à sauver des vies. Bientôt, ce sera votre tour. Renseignez-vous sur le plan de vaccination de l'Ontario, payé par le gouvernement de l'Ontario.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Il est 18h. Faut être chez soi. J'ai peur de pas pouvoir tenir longtemps comme ça. 2021, ça commence bien. C'est pas du tout la même merde que 2020. Être humoriste, c'est du passé. Faudra fouiller les livres d'histoire pour nous trouver. Ma mère m'avait prévenu, deviens médecin. Je suis sûr pour se venger, c'est elle qui a bouffé le pangolin. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi. Et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Vaccinez-moi, vaccinez-moi. S'il faut mourir, je veux pas mourir d'ennui chez moi. Vaccinez-moi. Ça fait un an que je vous donne mon temps. C'est ce qu'on a de plus cher quand on a 20 ou 30 ans. Rendez-moi ma vie, mes soirées du samedi. Même si elles n'ont pas changé car j'ai pas d'amis. Moi le vaccin, je voulais pas le faire. Mais aujourd'hui peu importe les effets secondaires. Mettez-moi dans le bras, n'importe quel produit. Tant que je peux partir plus loin que la Normandie.
Ah, c'est marrant ça. Moi j'ai une sœur en Normandie, moi. Donc, écoutez. Allez faire le refrain.
Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi. Et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Vaccinez-moi, vaccinez-moi. S'il faut mourir, je veux pas mourir d'ennui chez moi. Vaccinez-moi. Je veux être dehors à n'importe quelle heure. Vaccinez-moi. Je veux vraiment voir d'autres meufs que ma mère et ma sœur. Sortez-moi de là. Vaccinez-moi. Je veux retourner en boîte pour redanser comme ça. Vaccinez-moi.
Vous écoutez Popourri Show, une émission un peu spéciale aujourd'hui pour cette longue fin de semaine. Et je vous rappelle que nous avons une invitée très spéciale aujourd'hui vers midi. Nous accueillerons Dr. Emmanuelle Lepichon-Wortzmann. Elle est la directrice du CREFO, l'Université de Toronto. Elle vient nous présenter son tout dernier livre, Défis et richesses à des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Et toute l'équipe de radio remercie chaleureusement Janine Maillard. Elle est la fondatrice du festival Compazouk de l'Ontario. Merci infiniment pour votre beau cadeau, pour vos dons à l'émission Popourri Show. Merci. Crise au Moyen-Orient.
Les tensions actuelles au Moyen-Orient suscitent des manifestations dans plusieurs pays à travers le monde. Comme à chaque fois que la situation au Moyen-Orient s'enflamme, le conflit s'exporte. Reporters sans frontières a saisi la Cour pénale internationale pour protester contre les frappes menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qui ont notamment détruit les locaux de 23 médias locaux et internationaux. Et cette semaine, Arabes israéliens, palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie s'unissent pour dénoncer l'occupation israélienne. Ils ont lancé un mouvement de grève général inédit pour protester contre la répression et surtout contre les bombardements meurtriers menés par l'État hébreu dans la bande de Gaza. Décryptage avec nos collègues à France 24.
Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. L'armée israélienne poursuit sa campagne de bombardement aérien sur Gaza. Au moment où nous enregistrons, les raids s'intensifient et ont déjà fait près d'une centaine de victimes côté palestinien, dont une vingtaine d'enfants. De son côté, le mouvement du Hamas qui contrôle la bande de Gaza a tiré plus de 1600 roquettes vers Israël, selon l'armée israélienne. Tout a commencé lundi dernier, une semaine après les affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et ailleurs à Jérusalem-Est, illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste du Proche-Orient. Bonjour Antoine Marion.
Bonjour Lisa.
Vous étiez notre correspondant à Jérusalem entre 2017 et 2020 et vous suivez de très près ce qui se passe sur place. Alors, on va essayer de revenir sur le début, d'où tout ça est parti. Les affrontements avaient commencé le 3 mai. Tout a commencé quand des Palestiniens avaient été blessés en marge d'une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit de colons juifs à Jérusalem-Est. C'est un conflit aujourd'hui dont on dit qu'il est politique, juridique et immobilier ?
Oui, c'est un conflit à tout point de vue qui dégénère malheureusement régulièrement parce qu'on ne s'attaque jamais aux causes profondes du problème, c'est-à-dire un accord politique, une solution politique. Du coup, il y a régulièrement des poussées de violence. Il y a eu plusieurs guerres récemment, on s'en rappelle, 2019, 2012, la dernière 2014. Et puis des poussées de fièvre régulièrement, y compris quand j'étais sur place avec Cécile Galoutchou, on a eu à plusieurs reprises des moments où il y avait 2, 3, 400, 500, 600 roquettes qui étaient tirées parfois vers Israël, et évidemment les bombardements étaient également dans l'autre sens puisque ça va toujours dans les deux sens. Là on est sur une poussée de fièvre plus longue, plus violente, la plus violente depuis 2014, et c'est un conflit à tout point de vue en effet parce que il y a tout est parti de la question de Sharjara, qui est un quartier de Jérusalem-Est qui est donc occupé selon le droit international, vous le disiez, occupé par Israël et qui est un quartier majoritairement palestinien et où il y a des familles qui sont en train d'être expulsées par la justice israélienne, même si la justice a fini par repousser sa décision, sans doute dans une volonté de calmer un petit peu le jeu, en tout cas pour l'instant, même si c'est repoussé d'un mois à peine. Parce que tout est question de terre là-bas, finalement. Chacun revendique ses terres, et là on voit, une sorte de droit au retour pour les juifs parce que ces logements étaient occupés par des juifs avant 1948 et donc la création de l'État d'Israël. Mais en même temps, les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit au retour sur les mêmes terres ou pour les mêmes périodes. Donc il y a évidemment ce conflit qui est juridique, concrètement, qui est immobilier, qui est la terre et qui est évidemment politique. Et donc on le voit militaire et sécuritaire.
Oui, l'homme dont vous parliez, c'est un homme qui a été considéré comme arabe et lynché par des militants israéliens d'extrême droite. C'était mercredi dernier. Merci beaucoup, merci Antoine, pour ces explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. À la semaine prochaine. Au revoir.
La planète souffre, la catastrophe climatique, on le sait, est à nos portes. Les émissions de CO2 explosent, les espèces disparaissent. Mais dans le même temps, un mouvement de masse est en marche pour rectifier le tir. Scientifiques, ingénieurs, chefs d'entreprise, leaders mondiaux ou adolescents, nous leur donnons une voix dans Élémentaire.
Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer.
Élémentaire, présenté par Marina Bertsch, à voir sur France 24 et France24.com.
RFI, toute la diversité du monde.
Francophonie. 1981-2021, 40 ans après, que reste-t-il des septennats de François Mitterrand ? Entre la langue française et François Mitterrand, on le sait, l'histoire d'amour ne s'est jamais attiédie. François Mitterrand a voulu mettre de l'ordre dans les institutions de la francophonie. 1986, patiemment, François Mitterrand attendit les circonstances favorables et dès qu'elles furent réunies, il entreprit d'amener à la table du premier sommet de la francophonie les figures indispensables de ce moment fondateur. À René Lévesque avait succédé au Québec Pierre-Marc Johnson, puis Robert Bourassa, et au Canada fédéral Brian Mulroney, avec lequel le président français s'entendait très bien. Le sommet qui se tint du 17 au 19 février 1986 regroupait 39 chefs d'État et de gouvernement de pays ayant en commun l'usage de la langue française. François Mitterrand, 40 ans après, l'électorat populaire s'est fortement érodé. Un reportage de Radio France Internationale.
RFI à Kingston. 96.5 FM.
C'était le 10 mai 1981, peu après 20h, et l'annonce à la télévision de l'élection de François Mitterrand, premier président de gauche socialiste, à être élu directement par les Français au suffrage universel. Des milliers de personnes envahissaient la place de la Bastille à Paris pour célébrer cette date historique. Mais 40 ans plus tard, où sont-ils passés ces électeurs de gauche qui espéraient changer la vie? Bonjour Frédéric Savicky.
Bonjour à vous, merci de votre invitation.
Eh bien, merci d'y avoir répondu. Politologue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Pourquoi la gauche, qui fut majoritaire dans le pays en 1981, donc, mais aussi en 88, en 97, lors des législatives, et puis en 2012 pour l'élection de François Mitterrand, pourquoi la gauche, aujourd'hui, ne pèse plus qu'un quart des voix dans l'électorat, selon les différents sondages qui sont réalisés ces dernières semaines?
Longue histoire, une histoire, on pourrait dire, de faite d'espoir et de déception. La déception n'a pas été tout de suite au rendez-vous, puisque 1988 a marqué la réélection de François Mitterrand, qu'après la contre-performance importante de 93, les socialistes sont revenus au pouvoir en 97. Mais néanmoins, le temps passant, l'électorat populaire, en particulier celui des ouvriers, des employés, des petits fonctionnaires qui avaient constitué le socle de la victoire de François Mitterrand en 1981, s'est fortement érodé. Alors ils sont allés au cimetière pour une bonne partie d'entre eux, faut quand même le rappeler, puisque c'était malheureusement il y a déjà 40 ans, donc les électeurs les plus jeunes qui ont voté pour la première fois, c'est mon cas, en 1981, ils ont aujourd'hui 58 ans, donc beaucoup évidemment ne sont plus là, leurs enfants n'ont pas forcément repris le flambeau de la gauche, c'est je pense le principal enseignement qu'il faut tirer. Beaucoup ont été en quelque sorte déçus, n'ont pas eu la même image de la gauche et du Parti Socialiste. Ils ont oublié les acquis sociaux importants qui avaient été obtenus en 1981 et ils ont surtout en mémoire finalement le quinquennat de François Hollande et pour les plus anciens d'entre eux celui de le gouvernement Lionel Jospin qui n'a pas laissé le premier beaucoup de souvenirs positifs, c'est même le contraire, et celui de Lionel Jospin a laissé des souvenirs en demi-teinte.
Oui, puisque Lionel Jospin n'avait pas été qualifié pour le second tour de la présidentielle de 2002. C'était Jean-Marie Le Pen qui avait pris sa place, entre guillemets. Justement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, pour expliquer notamment l'état de la gauche en France, le pays est majoritairement, très majoritairement à droite aujourd'hui? Il y a eu une droitisation depuis quelques années.
Je pense qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens, mais il ne faut pas généraliser trop. En 1981, quand François Mitterrand l'emporte, les gens qui se disent de gauche, ils sont plus que 25%, ils sont à peu près 35%. C'est pas non plus la majorité de la population. Il y a un effet d'entraînement lié à l'élection. Et puis, bien sûr, les gens ne votent jamais pour, ils votent aussi contre. Il y a un rejet très fort de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est pas forcément parce que la gauche aujourd'hui, spontanément, représente 25% des gens qu'il n'y a pas plus de personnes que ça qui sont attachées à des valeurs de gauche, de justice sociale, d'équité, de redistribution. Et le problème, c'est que ce sont les partis de gauche aujourd'hui qui n'apparaissent plus à ses électeurs comme ceux qui sont les meilleurs défenseurs de ces valeurs, et une partie effectivement de ces électeurs se tourne vers le discours et les promesses protectionnistes et nationalistes représentées par Marine Le Pen en particulier.
Frédéric Savicky, vous avez justement écrit un livre intitulé La fin des partis, point d'interrogation. Est-ce que le parti socialiste est condamné selon vous? Est-ce que d'une manière plus générale la gauche peut revenir au pouvoir sans un PS fort?
Eh bien, je ne sais pas si ce sera un PS, mais en tout cas, la gauche peut difficilement revenir au pouvoir si elle n'a pas un parti ou en tout cas une organisation ou des organisations fédérées qui entraînent la population. Les idées de gauche sont des idées, on va dire, de transformation sociale. Et pour que les gens soient convaincus, il faut effectivement leur faire un travail de mobilisation, d'explication, d'explicitation contre un néolibéralisme qui reste encore très largement dominant d'un côté, puis de l'autre contre le retour des valeurs nationalistes. Tracer une voie entre les deux qui ne soit pas simplement une voie d'égoïsme ou de repli sur soi, c'est aujourd'hui très compliqué à faire, et ça ne peut être fait que en reprenant un bâton de pèlerin partout en faisant ce qu'avait fait le Parti Socialiste, mais aussi le Parti Communiste dans les années 70 en particulier, de tisser de nouveau des liens avec le monde social et avec les associations, les syndicats, les mouvements sociaux nouveaux aujourd'hui qui se développent dans notre société, et ils sont nombreux.
François Hollande, dans une interview ces jours-ci, dit que ce n'est pas l'union qui fait la force, mais la force qui fait l'union. En gros, sans idée, sans programme et sans leader incontestable, la victoire est impossible.
Oui, alors c'est une formule dont il faudrait, pourrait dire, décrypter véritablement la signification. Je pense que les idées, elles sont là. Les propositions potentiellement sont là. Le problème, c'est la crédibilité. C'est-à-dire, et François Hollande, là-dessus, est quand même un peu mal placé pour donner des leçons, puisqu'il a contribué quand même beaucoup à la fois à faire advenir Emmanuel Macron au pouvoir, et puis de l'autre côté, à discréditer considérablement justement le Parti Socialiste en menant une politique qui a été quand même perçu par beaucoup d'électeurs de gauche comme n'étant pas précisément de gauche. Donc si aujourd'hui les socialistes et les autres doivent remonter le courant, ils le doivent malheureusement en partie aussi à l'échec de ce quinquennat, son ADN historique. Et évidemment, c'est pas toujours compatible avec le court terme. Les élections ont lieu tous les 5 ans. Pour développer un projet de transformation, c'est très très court. Donc les électeurs attendent des résultats immédiats. C'est pas toujours facile, notamment dans un contexte international compliqué. Il y a eu la crise financière de 2008, il y a aujourd'hui le Covid, il y a eu avant la crise terroriste, autant de points effectivement qui éloignent de réalisations rapides et tangibles, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans un système effectivement aussi d'accord avec nos partenaires européens qui empêche évidemment de faire plus facilement ce qu'avait fait François Mitterrand en 1981, par exemple nationaliser une partie de l'économie ou pour pratiquer une politique de relance massive. Si les Européens ne suivent pas, nous ne pouvons pas le faire.
Mais ça n'avait duré que 2 ans pour François Mitterrand. Merci beaucoup Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Oh, il la lavait tous les jours et la faisait sécher au four. Elle sonnait comme une clochette,
mais tout le monde la trouvait chouette. Elle est drôle, non?
Oui.
Oh, est-ce que tu veux la réciter avec moi, Nathalie?
Oui.
Hey, chérie, fais les gestes avec nous. On y va. Luc avait une
trompette.
Qui sentait la vieille
chaussette?
Il la lavait
tous les jours
et la faisait sécher
au four.
Elle sonnait comme une
clochette. Oh,
mais tout le monde la trouvait
chouette.
Hey, bravo, c'est très bien, tu chéri.
Où va la francophonie ontarienne? Le président de TFO visé par de graves allégations. Nous, ainsi qu'un certain nombre d'employés, ont été et sommes victimes ou témoins de harcèlement, intimidation, menaces, conflits d'intérêts, manque de respect des directives et politiques. Ceci contribue à un climat toxique et non sécuritaire. Entre Eric et Oscar, il y a 3 niveaux de direction. Eric n'aurait jamais dû s'impliquer, mais son chum ne s'entendait pas bien avec Oscar. Les gestionnaires et PDG vivent dans une bulle. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de favoritisme. Climat de travail toxique, le mot malaise revient d'ailleurs très souvent pour décrire les comportements du PDG par intérim à TFO. De nombreuses sources ont confié à la journaliste de Radio-Canada avoir été victime ou témoin d'intimidation, de harcèlement ou de pression indue de la part du PDG de TFO. Le gouvernement fédéral devrait examiner attentivement la façon dont l'argent est dépensé. Mauvaise éthique de travail, absolument aucune connaissance de la gestion budgétaire, ce qui entraîne des mises à pied massives sur une base annuelle et de mauvaises décisions d'investissement. Dépenses inutiles par la haute direction, gestion non inclusive. Ils opèrent par clic, un racisme latent y règne. Ce sont là, mesdames, messieurs, quelques extraits de l'article de Radio-Canada et des messages reçus à la radio depuis quelques jours. Après la passerelle ID, la Société économique de l'Ontario et tout récemment l'Université Laurentienne, c'est au tour du groupe Média TFO, la télévision française de l'Ontario, d'être dans le viseur des autorités et des bailleurs de fonds. Depuis l'article choc de Radio-Canada signé par la journaliste Natasha MacDonald-Dupuis, les langues se délient. Popourri Show a été inondé de messages à des francophones mordus de la culture des médias, des ex-employés et auditeurs qui sont révoltés, déçus par la crise qui secoue actuellement le diffuseur public, le fleuron de la francophonie ontarienne. Monsieur Éric Minoli, PDG de TFO, a été finalement suspendu de son poste après des heures et des heures de débats entre les membres du conseil d'administration. Malgré le départ forcé du PDG de TFO, plusieurs personnalités de la francophonie ontarienne exigent des comptes. Certains exigent le congédiement de tous les membres du CA car ils ont failli à leur tâche en mettant en danger la vie et le bien-être des employés de TFO. D'autres n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et oui, ils réclament carrément la fermeture de TFO, car selon eux, TFO ne représente pas la diversité de la francophonie ontarienne. Selon nos sources, des lettres signées et anonymes circulaient depuis un bon bout de temps au sein de TFO, et les membres du conseil d'administration, y compris le gouvernement de l'Ontario, étaient très au courant de ce qui se tramait à TFO, mais malheureusement, il ne s'est rien passé. Une auditrice, ex-employée à TFO et à Radio-Canada, une fervente francophone, et je dirais même grand témoin des transformations de l'Ontario français, nous écrit, et je cite, « Le scandale de TFO, une autre nouvelle qui porte ombrage à tous les artisans journalistiques et journalistes qui ont contribué aux archives électroniques de l'Ontario français. » Bravo à Radio-Canada pour permettre aux journalistes comme Natasha MacDonald-Dupuis à réaliser un journalisme d'enquête à la hauteur des standards journalistiques du réseau. En milieu minoritaire, cela est la seule source qui a les ressources, l'expertise de défendre ceux qui n'ont pas de voix et compenser pour une presse régionale démunie qui n'a pas la volonté d'aliéner leurs commanditaires ou le conseil d'administration qui préfère ne rien voir parce que c'est moins de travail. Le pire, c'est que ces problèmes de gouvernance mettent en péril toutes les institutions franco-ontariennes qui ont été construites par ceux qui les ont précédées, qui avaient à cœur les bienfaits de la communauté. Eh oui, et nous avons reçu une mise à jour de TFO. Le président du CA de TFO, Jean Lépine, évoque l'urgence à renouer le dialogue et la confiance avec les employés et la nécessité de changements profonds à TFO suite aux allégations de harcèlement et de climat toxique. Malgré le silence du gouvernement de l'Ontario et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, on peut en déduire un certain malaise, car certains grands ténors de la francophonie étaient bel et bien au courant de la situation chaotique à TFO. Un membre très influent de la francophonie ontarienne nous écrit, et je cite, « TFO a raté le bateau. Elle n'a pas su compter sur cette francophonie dynamique et diversifiée. » L'avenir du français en Ontario sera porté par la relève d'une francophonie plurielle. Et enfin, nos remerciements à Rudy Chaban, journaliste à ONFR+, c'est la plateforme électronique de TFO, et Natasha MacDonald-Dupuis, elle est journaliste à Radio-Canada. Grand merci. Pour nous joindre tout au long de la semaine, popourri@cut.fm. À bon entendeur, salut!
Vaccinez-moi, vaccinez-moi, oui tout de suite, allez plus vite, vous me faites marcher, et puis languir. et désiré. Vaccinez-moi. Vaccinez-moi. Mais lequel choisir? Tous les vaccins sont-ils bien? L'AstraZeneca est-il aussi bien que ça? Les effets secondaires nous foutent à terre. Le Pfizer est-il mieux? J'en ai plein le cul. Ou alors, et puis zut, je prends les deux. Vaccine-moi. Vaccine-moi. Oui, tout de suite. Allez plus vite. Je vous donne mon bras. Piquez-moi là. Je ne regarde pas. Vaccine-moi. Vaccine-moi avec délicatesse sur les fesses, ici ou là. Si je devais choisir, j'aurais pris le français, mais il s'est éclipsé, c'est idiot. Oui, ça y est, j'ai choisi, je prends l'américain. Le chinois, j'en veux pas. Oh non, non, non. Vaccine-moi. Vaccine-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me désinfecter. Me piquer. Me penser. Vaccinez-moi. Vaccinez-moi. Attendez, je ferme les yeux. Attendez un peu. Allez, allez. Vaccinez-moi. Vaccinez-moi. Et vous vaccinerez-vous?
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Lors des prochaines élections consulaires, simplifiez-vous la vie avec le vote par Internet. Quel que soit votre lieu de résidence, vous pourrez voter du vendredi 21 jusqu'au mercredi 26 mai pour élire vos conseillères et vos conseillers des Français de l'étranger. Que vous soyez sur votre canapé, en déplacement ou loin de votre bureau de vote, votez depuis votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Rendez-vous sur le portail de vote dédié, accessible depuis le site de France Diplomatie, à compter du 21 mai. Connectez-vous grâce à l'identifiant et au mot de passe envoyé par l'administration quelques jours avant l'ouverture du portail de vote. Cette modalité de vote est fiable, rapide et pratique. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'on n'habite pas en France que l'on n'est pas représenté. Alors rendez-vous du vendredi 21 au mercredi 26 mai pour voter par Internet.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Éducation inclusive. Qu'est-ce que l'inclusion? Comment tirer parti de la diversité? Alors que nous amorçons la deuxième décennie du XXIe siècle, nos communautés scolaires continuent de refléter la diversité grandissante de notre société sur le plan de la culture, de l'ethnie, de la race, de la langue, de l'orientation et de l'identité sexuelle, de la religion et de diverses autres caractéristiques. Pour aider les enseignants à adapter leurs méthodes et ces nouvelles communautés scolaires, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, présente « Défis et richesses des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures ». C'est le dernier livre de Nathalie Auger, professeure de l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3, en France, et docteur Emmanuel Le Pichon-Vorsman, directrice du CREFO. En 2009, l'Ontario lançait avec fierté la stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive. Dans la préface, on peut y lire « L'éducation inclusive est essentielle à l'instauration d'une éducation de haute qualité pour tous les apprenants et au développement de sociétés plus inclusives ». Dans plusieurs pays, l'inclusion est encore perçue comme une approche consistant à s'occuper des enfants handicapés dans des établissements scolaires généraux. Au niveau international, cependant, elle est de plus en plus considérée comme un concept plus large, comme une réforme consistant à soutenir et favoriser la diversité chez tous les apprenants. Nous voulons vivre dans un pays de paix et de prospérité, où les lois sont justes et les gens compatissants, où les citoyens de toutes les origines trouvent des chances égales de réaliser leur potentiel, d'apporter quelque chose à leur milieu, de contribuer à l'économie de l'État et de jouer un rôle dans son système politique. Plus de 10 ans après, où en sont les écoles, surtout francophones de l'Ontario, dans la mise en œuvre de cette stratégie, stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive? En quoi consiste le nouveau livre de notre invité? Comment bien accueillir à nos écoles les familles qui arrivent d'horizons divers? Comment faire pour mettre pleinement en valeur toute la richesse qu'offre la diversité culturelle de nos écoles? Défis et richesses à des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. C'est le dernier livre de Nathalie Auger, professeure de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 en France, et docteur Emmanuel Le Pichon-Vortman, directrice du CREFO. Vous y trouverez tous les liens sur notre site popourichaud.com. Accueillons sans plus tarder notre invité, Emmanuel Le Pichon-Vortman, professeure adjointe et directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, à l'Université de Toronto.
Hello, bonjour.
Professeur Emmanuel Le Pichon-Vortman, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va, ravi de vous recevoir à l'émission. Et pour les auditeurs...
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Très bien. Pour les auditeurs qui nous écoutent à l'étranger, il faut leur dire que nous sommes toujours en confinement, en mode confinement. Mais nous sommes prêts, je pense, presque au bout du tunnel, je pense.
Je le pense aussi. En tout cas, je veux le croire.
Oui. Alors, ça bouge dans le monde de la francophonie, dans le monde de l'éducation au Canada. Vaste réforme pour éviter la disparition du peuple francophone du Québec. Vous l'avez sans doute entendu. Inquiétude chez les étudiants du Cégep du Québec. Et en Ontario, depuis le début de la pandémie, des enseignants ont développé des initiatives personnelles pour maintenir un lien d'apprentissage avec leurs élèves. Et enfin, le ministère de l'Éducation de l'Ontario mise sur les chaînes publiques, la chaîne TFO et TVO, Télévision française de l'Ontario, chaîne publique que tout le monde connaît, afin de permettre aux élèves de continuer à travailler depuis chez eux durant la période de fermeture des classes. Tout ça pour vous dire que le monde est toujours en mode virtuel. Et comment ça se passe justement chez vous? Est-ce que vos collègues et vous-même, vous avez rencontré des incidents affectant l'apprentissage de vos étudiants en cette période de pandémie, professeur?
Alors, pour nous à l'université, ça a été beaucoup plus simple parce que nous sommes passés en ligne très rapidement et nous ne sommes pas revenus dans les classes entre deux. Donc, il y a une certaine continuité, on a pu s'installer dans la continuité et continuer à enseigner en ligne d'un bout à l'autre. Donc, on espère beaucoup être de retour dans les classes en septembre. Mmh. En revanche, tous nos étudiants sont des enseignants Et eux ont vraiment eu une année très difficile. Ils ont été très malmenés par la pandémie, par le fait que, voilà, ils commencent à enseigner en classe, on leur dit d'aller en ligne. Ensuite, ils sont en ligne, on leur dit de retourner en classe. Et puis, au moment où ils sont juste réhabitués, leurs élèves sont réhabitués, hop, pour retourner en ligne. Donc vraiment, ça a vraiment été très très dur. Et je pense qu'ils sont au bord du découragement.
Oui.
Donc, il est vraiment temps que ça s'arrête.
Défis et richesses des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. C'est votre dernier livre, coécrit avec Nathalie Auger, professeure de l'université Paul-Valéry Montpellier III en France. Elle est déjà passée à notre émission et d'ailleurs j'aimerais brièvement, si vous permettez, qu'on la présente. Nous avons eu le plaisir de la recevoir à nos micros en 2019. Mot-clé pour la présenter, élèves allophones, roms, gitans, plurilinguisme, interculturel, ressources pour la formation des formateurs. Elle est une spécialiste sur les questions linguistiques et didactiques des langues étrangères et secondes. Elle a travaillé notamment sur plusieurs projets européens, internationaux, et elle possède une expérience très poussée sur les pratiques d'enseignement œuvrant en milieu plurilinguiste, plurilingue, multiethnique, au Canada et en France, parce qu'elle a déjà collaboré à plusieurs œuvres, plusieurs recherches, en contexte majoritaire en France et minoritaire au Canada. Et ici, je pense à cet ouvrage coécrit avec professeur Carole Fleuret, peut-être que vous connaissez, elle est à l'Université d'Ottawa, et j'espère qu'elle sera des nôtres très prochainement. C'est une personne que j'aime bien parce que elle a cette vaste expérience du monde de l'éducation et de la diversité. Alors, défi et richesse des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Quel est l'objectif premier de ce livre? Et ce livre s'adresse à qui?
Alors, ce livre s'adresse à tous ceux qui sont curieux de comprendre, alors aussi bien des parents que des enseignants. D'ailleurs, parents enseignants nous ont déjà envoyé des retours sur la lecture de ce livre en nous disant que ça les avait beaucoup aidés, enrichis, etc., pour comprendre quels sont les enjeux du plurilinguisme dans nos salles de classe aujourd'hui. Alors, quand on parle de plurilinguisme, on parle des langues des élèves, forcément, puisque la langue de la classe reste la langue de l'école et très souvent la langue de la province ou la langue de la nation ou les langues de la nation. Donc voilà. Alors, le but de ce livre, le premier but de ce livre, c'était, comme vous l'avez très bien dit, Nathalie et moi, nous avons des expériences variées, nombreuses, de beaucoup de projets nationaux et internationaux, moi depuis déjà 2009. En fait, j'ai commencé même avant ça, en 2005, et c'est ça qui m'a beaucoup frappée. J'ai fait ma thèse sur les écoles internationales et là, je me rendais compte dans les écoles internationales que les enfants étaient vraiment célébrés, les étudiants étaient célébrés pour leur plurilinguisme. On leur disait « Ah, tu parles quelle langue? Tu parles arabe? Oh, formidable, bien, est-ce que tu veux bien nous faire une présentation sur ta culture, etc. » Pareil, quand je suis arrivée, on disait « Ah, néerlandais, voilà, parle-nous de ça. » Donc voilà, un traitement très différent pour les enfants qu'on dit d'expatriés dans les écoles internationales, et puis les enfants issus de la migration. Et puis, au cours de nos pérégrinations, dans ces différents projets nationaux et internationaux, eh ben, beaucoup d'enseignants, de directeurs, de parents, de politiques aussi, des influenceurs, nous ont posé la question, nous ont posé beaucoup de questions, y compris les enfants, en fait. Et ce livre et donc pour répondre à ces questions.
Et avec tout le respect que je vous dois, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'études dans le passé qui ont été réalisées, pas spécifiquement sur les langues dans les classes en Ontario et surtout dans le monde francophone, parce que pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, nous vivons pas mal de dilemmes quand on parle des droits des minorités, et surtout des minorités linguistiques, n'est-ce pas? Et ça peut poser un peu problème chez certains, j'ai parlé un peu... c'est un livre qui intéresse beaucoup de gens, cela ne laisse personne indifférent, ça il faut le dire. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enseignants, d'anciens agents d'éducation, du ministère de l'Éducation, des analystes politiques qui m'ont dit « Ah, tu t'en souviens, dans les années 80-90, on avait réalisé pas mal de projets dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça apporte du neuf, de nouveau ? Et aussi, quelle réponse que ça apporte pour justement encadrer les enseignants afin qu'ils arrivent à respecter toutes ces langues étrangères dans les salles de classe en Ontario ou au Canada ?»
Alors, c'est très intéressant que vous parliez des résistances vis-à-vis des initiatives plurilingues. Effectivement, on se rend compte que la langue catalyse énormément l'attention des individus comme des collectivités. L'autre chose dont on s'aperçoit, c'est que la langue, les langues sont un objet éminemment politique. Hein, elles sont utilisées dans la société par les politiciens pour l'organisation de la société. Donc ce qu'on retrouve en Ontario, ce qu'on retrouve au Canada, ce sont des problématiques qu'on les retrouve dans le monde entier. Donc c'est pas du tout... Enfin, le Canada a sa spécificité, les provinces ont leur spécificité elles aussi, mais on le retrouve dans beaucoup de pays du monde. Par exemple, je me souviens de la situation extrêmement compliquée de la Lettonie, mais aussi des Pays-Bas, et puis par exemple de la France. Hein. Il y a deux lois qui viennent d'être passées qui sont assez intéressantes dans ce sens. Donc ça, c'est très intéressant. L'autre chose que vous avez dit qui est aussi très intéressante, c'est que effectivement, ce sont des recherches qui sont menées depuis 40 ans déjà, et il y a des choses que l'on sait de par la recherche. Par exemple, on sait que si on prend en compte les acquis, les langues, les connaissances, les cultures des élèves dans la salle de classe, ils apprendront beaucoup plus vite. Vous savez, l'éducation, les écoles sont au cœur de l'organisation de la société.
Et quand moi je suis à Saint-Martin, on parle que le français, l'anglais et très peu de hollandais. Hein.
Oh.
À Saint-Martin, on parle que le français et l'anglais.
Ah, c'est possible.
Alors, défi richesse des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Les autrices sont Nathalie Auger, professeure de l'université Paul-Valéry Montpellier III en France, et docteur Emmanuel Le Pichon, directrice du CREFO. Et vous êtes aussi animatrice des podcasts du café, les cafés du CREFO, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Félicitations. Alors, donc, bravo pour cet ouvrage, professeur. C'est un ouvrage que je dirais essentiel pour les enseignants, partout en Ontario, au Québec, au Canada, parce que nous sommes écoutés un peu partout à travers le Canada. Ils sont plus de 11 000 personnes, entre 11 000 et 14 000 personnes qui synchronisent CUTFM chaque dimanche à travers le Canada. Et ce livre traite des sujets d'actualité, à mon avis. Et pour aider un peu nos auditeurs à mieux saisir certaines thématiques qui sont traitées, on peut lire « Droit des langues et devoirs des enseignants ». Vous parlez aussi, vous traitez enfants d'expatriés ou enfants migrants, même situation langagière, mais traitement différent. Saviez-vous que les langues et cultures sont d'abord et avant tout un droit? Vous traitez aussi de l'identité culturelle, langue et valeur. Qu'est-ce que c'est au juste? Quelles sont les étapes concrètes vers l'application de ces droits dans mon institution? Personnellement, la section qui m'intéresse le plus, c'est langue de la maison, langue de l'école. Comme vous savez, parler plusieurs langues, c'est une norme mondialement partagée, vous dites dans votre livre. Deux langues ou trois, un atout ou un frein à l'apprentissage. Et j'aimerais ici vous partager mon expérience personnelle. J'ai un neveu et une nièce qui sont à Turin, en Italie. Ils sont tous les deux à l'université en ce moment et ils parlent sans aucun accent couramment l'italien, l'anglais, le français, l'espagnol et le créole mauricien. Et les deux nagent comme un poisson dans l'eau sans aucun souci de perdre une des langues parlées. Et j'en connais aussi des cas au Canada, hein, à Montréal, au Québec, à Ottawa. Parler donc plusieurs langues, une norme mondialement partagée, comment convaincre certains francophones qui sont à l'écoute, les purs et durs, que c'est possible de parler plusieurs langues sans perdre le français?
Oui, tout à fait. Alors, oui, on entend très souvent dans les classes, si je n'interdis pas la langue des enfants, ils parleront jamais la langue de l'école. Ça, c'est vraiment un mythe très fort ancré dans les mentalités, et en particulier dans celles, hélas, on le voit très fort avec le français au Canada, avec toutes ces polémiques sur les accents, par exemple.
Ah, en effet.
Ah, si tu as tel accent, tu parles pas bien le français. Vous voyez comme ça peut être... Alors, les gens vont arrêter de le parler? Vous voyez comme ça peut être mauvais dans l'éducation pour une personne de sentir que sa manière de parler n'est pas forcément la bonne.
Voilà. Dans la table de matière de votre livre, Défis et richesses des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures, il y a des points qui peuvent susciter, à mon avis, débat chez certains enseignants. Par exemple, de l'expertise de l'enseignant à celle de l'élève, s'appuyer sur les compétences langagières des élèves, valoriser l'expertise de l'élève, c'est le sécuriser dans ses connaissances. Je ne veux pas ici mettre en doute la compétence de l'enseignant, mais il faut admettre, professeur, que c'est pas si simple pour tous les enseignants de valoriser l'expertise de l'élève.
Ah non, ce n'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Et vraiment, ce n'est pas du tout ce que nous disons dans notre livre. En revanche, c'est une démarche intelligente et une démarche d'humilité. C'est-à-dire que l'enseignant est évidemment détenteur d'un savoir. Alors, c'est un savoir qui est relatif à son expertise, hein, les contenus. Par exemple, un enseignant de maths, c'est évident qu'il a les maths à enseigner, un enseignant d'histoire, l'histoire, etc. Donc, on ne remet pas du tout ça en compte. En revanche, il est très important, par exemple, imaginez un enseignant d'histoire qui enseignerait la Seconde Guerre mondiale. Ici au Canada, il va prendre la perspective du Canada, ce qui semble assez évident. Pourquoi ne pas demander à l'élève venu d'ailleurs d'offrir la perspective de son pays d'origine sur cette même guerre? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Donc c'est faire rentrer des savoirs qui permettront d'enrichir finalement les connaissances globales de la classe et puis de valoriser l'élève. En maths, par exemple, pourquoi ne pas mettre en avant ces chercheurs-découvreurs arabophones qui ont profondément marqué l'histoire des mathématiques? Vous voyez, on a tendance d'avoir une approche qui est souvent une approche ethnocentrée et nationaliste de l'enseignement et des contenus. Et en fait, ce que nous voulons dire par là, c'est que quand nous parlons de l'expertise de l'enseignant à celle de l'élève, c'est comment ouvrir à la fois ses contenus et en même temps la manière de les transmettre à l'expertise des familles et des élèves. Par exemple, on sait, toutes les recherches ont montré que plus les parents sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, et plus les enfants ont des chances de réussir. Mais si d'emblée, le curriculum n'est pas accessible aux parents, comment voulez-vous qu'ils soutiennent leurs enfants? Vous voyez? Donc, une grande partie de la démarche, c'est aussi d'inclure les parents et les familles dans cet enseignement. Donc, par exemple, dans la plateforme scientifique avec laquelle nous travaillons, là, sur les STEM, donc sciences et mathématiques, le fait que la plateforme soit aussi traduite en érythréen a fait que les parents d'Érythrée ont pu avoir accès au contenu d'enseignement en maths et donc soutenir leurs enfants en maths à la maison pour augmenter l'exposition aux maths de leurs enfants et puis pouvoir retravailler les formules après l'école, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, et d'ailleurs, la pandémie a peut-être un bon côté, si on peut parler ainsi, parce que là, le gouvernement a été obligé d'inviter les parents à s'intégrer dans l'apprentissage de leurs enfants, n'est-ce pas?
Mais tout à fait. C'est très impressionnant, moi qui suis constamment en contact avec des enseignants, ils m'ont dit, en fait, ce qui est très difficile en ce moment, c'est que tout d'un coup, avec le passage en ligne, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas fonctionner sans les parents.
Voilà.
Et le problème, c'est que nous n'avons pas encore les moyens pour communiquer effectivement avec eux. Donc vous voyez, ça fait 40 ans qu'on sait qu'il faut communiquer avec les parents pour pouvoir optimiser l'enseignement. Et c'est la pandémie qui nous force à remettre le système actuel en question pour pouvoir développer des stratégies qui permettent de faire ça. Et j'ai vu des écoles développer des stratégies extraordinaire dans ce domaine. Donc, organiser, par exemple, des conférences sur un software qui leur permettait de traduire en synchrone ce qu'ils disaient dans la langue des familles, qui permettait d'avoir une communication efficace avec ces familles.
Incroyable.
Vous voyez, ce sont encore une fois les écoles et les enseignants qui font preuve d'une créativité incroyable et sans lesquels on ne pourrait rien.
Oui, on pourrait passer des heures et des heures à parler avec vous. Pour terminer, vous traitez d'autres thèmes très intéressants rapidement, l'isolement, harcèlement, violence verbale, des malentendus en raison de normes langagières et pragmatiques diverses. Et tout ça, c'est la réalité. Hein. On entend ces histoires, malheureusement, qui se déroulent dans nos classes partout au Canada, parce que les gens n'étaient pas préparés. Alors, il y a aussi ces discours qui peuvent provoquer des tensions, l'insulte, une mise à distance, pourquoi l'intégration et la stigmatisation négative, isolement et harcèlement par manque de reconnaissance. Et puis, il y a aussi, professeur, chez beaucoup, ces normes de stéréotypes envers certaines personnes issues de la diversité, par exemple, une personne d'origine italienne ou africaine a tendance à parler fort et avec beaucoup de passion, gesticule même des fois, et ça peut intimider son interlocuteur et même des enseignants. On l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les cours d'école, une simple discussion tournée au vinaigre, et souvent l'enfant issu de la diversité est le premier à être puni. Comment pouvons-nous éviter de tels incidents, en deux mots?
Oui, alors c'est très très important ce que vous dites. La première chose, c'est d'en être conscient, hein, d'être conscient de ces différences et d'être aussi conscient. Vous savez, on est très souvent conscient de l'autre quand il rompt avec notre norme. Mais en fait, ce qui est très important, c'est de prendre conscience de notre propre norme. Donc, qu'est-ce que moi je trouve acceptable et pourquoi? Et puis ensuite, d'en parler. Alors moi, j'ai vu des enseignants extraordinaires établir, par exemple, des contrats dans la classe avec leurs élèves. Alors j'ai vu des posters sur les murs des classes ici en Ontario où les professeurs avaient dit, voilà, ici, quand on parle ensemble, on se respecte. Ici, on ne crie pas, etc. Avec les élèves qui avaient signé. Donc, l'éducation, c'est ça. Elle éduque. Hein? Un enseignant, il est là pour éduquer. Et donc, ce que nous mettons en avant, alors vous m'avez demandé de faire en deux mots, donc j'essaie de faire en deux mots, mais ce qui est très important, c'est de ne pas sortir de cette perspective d'éducation, en cherchant toujours le dialogue, hein? en parlant des normes de la classe, en parlant des normes de culturel, linguistique, et puis en disant, bon ben voilà, on fait comme ça, on va faire comme ça dans la classe. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, ok, on suit. Vous voyez, ça c'est un côté très important. Alors, l'insulte, c'est autre chose. Vous savez, par exemple, moi, si vous m'insultez en français, ce que vous ne ferez pas, bien entendu, ça aura beaucoup plus d'effet sur moi que si vous m'insultez en néerlandais ou en anglais, ça aura encore moins d'effet si vous m'insultez en chinois parce que je ne le comprends pas. Donc vous voyez, chaque langue est ancrée émotionnellement en nous. Et donc, une famille, un enfant qui arrive n'a pas cet ancrage émotionnel dans la nouvelle langue. Donc il est important pour les étudiants de prendre conscience du poids de ces mots, d'en parler. Et ça m'est arrivé avec mes propres enfants, hein, d'avoir des dialogues avec eux sur la force et le pouvoir de certains mots dans les langues différentes, en exemplifiant, etc. Donc, toujours prendre conscience du vécu de l'autre, se raconter, et puis surtout écouter, et puis ensuite éduquer. Voilà.
Défi et richesse des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. C'est le dernier livre de Nathalie Auger, professeure de l'université Paul-Valéry, Montpellier 3 en France, et professeur Dr Emmanuel Le Pichon-Wortmann, directrice du CREFO. La préface est signée Dr Jim Cummins. Bravo. Il est professeur-chercheur au département du curriculum, de l'enseignement et de l'apprentissage à OSI. Un livre, madame, monsieur, que je vous recommande personnellement. Vous y trouverez tous les liens de notre invité sur notre site web popourichaud.com et sur le site du CREFO, bien sûr. Et cette entrevue sera disponible sur notre site juste après cet entretien. Et rapidement, j'aimerais juste partager un petit peu des petites nouvelles sur le CREFO. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Le CREFO, qui est le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, et la faculté d'éducation de l'Université de Toronto, est un centre de recherche interdisciplinaire, il faut bien le rappeler, professeur, n'est-ce pas, où on étudie les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Et j'invite les auditeurs à visiter votre site qui est très bien fait pour mieux connaître les cours, les programmes destinés aux étudiantes, étudiants francophones et francophiles intéressés à poursuivre des études supérieures de deuxième, troisième cycle, ainsi que des programmes de maîtrise ou de doctorat. Il y a toute une section foire aux questions qui est très bien fait. Et là, que vous soyez au Canada ou à l'étranger, crefo.oisy.utoronto.ca. Et je rappelle aux auditeurs que vous avez publié plusieurs livres, plusieurs recherches qui abordent des sujets brûlants. Il y a un projet que vous venez de pondre et qui nous intéresse tous, réduire les écarts d'apprentissage causés par la pandémie, soutenir les enseignants et leurs élèves issus de la diversité grâce à la technologie numérique. Ça a été publié récemment, hein, je pense.
C'est un projet de recherche, ce sont en fait trois projets de recherche qui s'intéressent essentiellement aux problématiques dont vous avez parlé tout à l'heure, en particulier de l'appropriation des sciences, des mathématiques et des sciences, par les élèves. Par contre, on s'est aperçu, les études internationales ont montré que le niveau baissait et que les élèves manquaient finalement de pratiques en dehors de la classe par rapport à ces matières. Donc, il y avait un travail urgent à faire avec ça, et donc c'est là-dessus qu'on travaille.
Eh oui. Et puis, un autre projet aussi qui nous intéresse, migration et médiation des langues et des hommes. Quel rôle pour la didactique des langues? Ça a été publié en 2018. Alors, on mettra tous ces liens sur notre site. Je trouve que c'est très, très important. Et puis, il y a la bonne nouvelle. Le docteur Normand Labrie, notre ami que nous connaissons très bien, a été nommé récemment doyen intérimaire de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Vous présenterez bien nos salutations au docteur Normand Labrie. Bravo, c'est une belle récompense, je pense.
Je n'y manquerai pas, et oui, nous nous réjouissons beaucoup de cette nomination.
Oui, alors, professeur Emmanuel Lepichon-Wortmann, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et il y a des podcasts qui s'en viennent bientôt.
Oh oui, très bientôt.
je vous remercie infiniment et que la force soit avec vous et à très très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Au plaisir.
Au revoir.
Le livre du jour. Charlotte Saint-Arnaud, un roman de Lynn Doyon aux éditions de l'Apothéose. Collaboration spéciale de La Communication, une agence de promotion et de marketing à Montréal. Ce livre conclut la trilogie que Lynn Doyon a amorcée en 2017 avec Lily Langelier et Noël Adéchambault. Trois romans, trois femmes différentes et captivantes à découvrir aux éditions de l'Apothéose. Dans ce dernier livre, notre invitée Lynn Doyon nous présente Charlotte Saint-Arnaud, qui à l'aube de la trentaine sait exactement où elle s'en va. Sa route est toute tracée, ses projets sont bien fignolés dans leurs moindres détails. En elle flambe une assurance inébranlable que rien ne fait fléchir. Son exubérance et sa confiance la protègent des insuccès et des déceptions. Puis, un jour, survient cette volte-face, cet événement inattendu qui l'a fait dévier de sa voie. Ses rêves si soigneusement échafaudés s'effritent alors comme un château de sable. Le doute s'installe, une remise en question s'impose. Plus rien ne sera plus tout à fait comme avant. À l'encontre de sa nature expansive, elle s'isole et choisit la fuite. Sera-t-elle trouver la force suffisante pour surmonter ces épreuves imprévisibles et estomper ses doutes? Pour connaître la suite de cette belle histoire intrigante, je vous invite, madame, monsieur, à vous procurer Charlotte Saint-Arnaud de Lynn Doyon aux éditions de l'Apothéose.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
À travers l'arcosa, à travers l'arcosa, ding et don.
Non, ding et don.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5, Toronto.
L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir.
Incroyable exploit réalisé par le Bénin.
Politique, économie, développement, art. Toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble, pour vous, sur France 24.
Restez avec nous, l'Afrique, sur France 24.
Liberté, égalité, actualité.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,7 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir Ipsy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis, pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligents. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore.
Découvrir la Martinique autrement, ça vous dit? C'est parti! Au départ de la Marina du François, en groupe ou en couple, embarquez à bord de l'Arc-en-Ciel et découvrez les magnifiques fonds blancs du François et la baignoire de Joséphine. Dans une ambiance fun et festive, pour tracter, kayak, paddle, farniente, rythmeront votre journée sur l'Arc-en-Ciel. Bien sûr, boissons et repas inclus. Alors, contactez-nous, Caraïbes Évasion s'occupe de tout, même du bus. Infoline 06 96 336 336 336 336.
Où est-il passé le printemps? Avez-vous vu le printemps, madame, monsieur? Et oui, madame, monsieur, nous entendons actuellement le talentueux Grégory Charles, chanteur, animateur, radio, télé, danseur, musicien, auteur, compositeur, interprète québécois. Bonjour Printemps, présenté par Francophonie en Fête, qui marquera le retour du beau temps. Un spectacle virtuel, en direct, absolument exceptionnel, le samedi 29 mai à 20h. Mettant en vedette Grégory Charles, le même spectacle en reprise le dimanche 30 mai à 20h. Un répertoire qui vous entraînera dans un survol des chansons les plus connues des années 60 à aujourd'hui. Alors achetez vos billets en ligne immédiatement en cliquant sur francophonieenfête.com. Bonjour Printemps, un spectacle virtuel en direct, et oui, avec l'homme orchestre, l'artiste parfaitement bilingue et issu de la diversité, Grégory Charles, le samedi 29 mai à 20h et en reprise le dimanche 30 mai à 20h. Des liens d'accès valides à deux participants de notre campagne, le son de votre ville, The Sound of Your City, pour un visionnement en direct en famille ou entre amis le soir de l'événement. Si vous avez déjà fait un don à Popourri Show, veuillez nous envoyer immédiatement vos coordonnées à popourri@cut.fm. Et qui sait, Bonjour Printemps, un tout nouveau concept, un tout nouveau volet de l'offre culturelle de Francophonie en Fête. Francophonieenfête.com et CUTFM, la radio comme je l'aime.
Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité.
Mmh.
C'est ça l'absurdité. Il nous est que le syndicat, que l'AFO nous explique pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants en contemporain issus de la diversité. Il y a de la matière grise, il y a de l'expérience. Il y a des gens qui ont des connaissances, qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons prendre la place qui nous revient de droit. Nous payons des cotisations comme tout le monde. Nous y avons droit. Nous avons le droit de participer à la vie de ce syndicat. C'est ce que nous réclamons. Pourquoi nous sommes exclus de la vie, de la gestion de ce syndicat? Pourquoi? Qu'on nous explique pourquoi? Alors qu'il y a de la compétence, alors qu'il y a des connaissances, alors qu'il y a la matière grise au sein des enseignants issus de la diversité culturelle.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls, nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever, nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales, nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le livre du jour.
Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Les concerts de Coldplay, toute l'histoire de la guerre froide, l'actu en Islande, les directs des Géos d'hiver, l'hibernation des marmottes. Tout ça dans une seule appli radio gratuite. C'est frais, non? Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Le président Emmanuel Macron a reçu une bien étrange visite dans le secret de son bureau présidentiel.
Emmanuel. Oui, c'est qui? C'est toi, Brigitte?
C'est moi, Emmanuel. François Mitterrand, le seul président immortel de la Ve République. Dis-moi, Emmanuel, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu n'as rien oublié dans ton agenda?
Ah ouais, d'accord, t'as compris. Il y a la victoire de la gauche en 81, c'est ça. Mais moi, j'avais 4 ans en 81. Je me souviens juste de Georges Filloux qui avait dit que le club Dorothée, c'était giscardien.
Ça, c'est fait. Quand je vois que tu vas t'incliner aux Invalides pour ce médiocre Napoléon Bonaparte et que tu ne fêtes même pas les 40 ans de mon arrivée au pouvoir.
Mais Napoléon, c'est lui qui a créé le code civil, les préfets, la Légion d'honneur.
Et moi, alors? J'ai pas eu besoin de la campagne d'Égypte pour construire une pyramide. Et puis, moi, j'ai créé la semaine de 39 heures et le musée de Charnac.
Ouais, mais Napoléon, il a une route à son nom, lui.
Oui, mais moi, mon nom, j'ai une grande bibliothèque, une bergerie à Latché, trois collèges et une passerelle au Creusot TGV. Et en plus, j'incarne les forces de progrès.
Oh, les forces de progrès, c'est tout ringard. C'est pour les boomers de gauche. En 2022, ce qui va marcher, c'est les forces de droite.
Nico, si tu avais lu mes biographies, tu saurais que je suis aussi de droite. Si tu veux être réélu, ce qu'il faut, c'est brouiller les pistes. Un jour, tu cites Chardonne à Bousquet. Un autre jour, tu vas au concert de Touche pas à mon pote avec Harlem Désir.
Ah ouais, cool, c'est du... Et en même temps.
C'est ça. Au fait, à propos de droite, tu les as bien mis dans le pétrin, hein, alors là, je te félicite. Maintenant, tu dois offrir la proportionnelle à Marine. J'ai bien connu son père, j'étais pas un mauvais bougre. Toujours prêt à donner un coup de main. Mais pour réussir, tu dois avoir des artistes avec toi. Tiens, il y en a une qui a l'air pas mal, c'est Camélia Jordana. Elle a une bonne tête de soutien, celle-là. Hein. Donne-lui une breloque républicaine, ça va l'amadouer.
Ah oui, mais moi je préfère Indocine et Sardou.
Tu n'as qu'à te forcer un peu. Tu crois peut-être que ça m'amusait de recevoir Barbara, Islain et Balavoine. Mais surtout, si tu veux faire un deuxième septennat, n'oublie pas de présenter ta fille cachée à Paris Match. Marlène Schiappa. Tu n'as qu'à dire que tu l'as eu avec Rotel Krief. Plus c'est gros, plus ça passe.
Mais j'ai pas de fille cassée et Brigitte, elle va me disputer.
Ta Brigitte, elle se mêle de tout. Il y a longtemps que tu aurais dû faire comme moi, Daniel. Quand elle me cassait les pieds, l'envoyer tricoter des pulls pour les guerrieros. Et si tu veux entrer dans l'histoire comme moi, n'oublie jamais la maxime que Napoléon m'a empruntée. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
Et oui, c'était Laurent Gérard. imitateur, humoriste, acteur et scénariste français que nous pouvons entendre à chaque matin sur RTL à Paris, radio très très connue et aussi en ligne, hein, comme vous le savez, au Canada, décalage horaire. Alors je vous rappelle que Laurent Gérard s'est rendu célèbre par ses imitations ironiques de personnalités politiques et de célébrités du monde, du spectacle, très 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 appréciées partout en Europe et même à Montréal. Et oui, nous souhaitons bien le bonjour à tous nos amis haïtiens, parce que vous savez, ils ont célébré le drapeau national de ce pays. Et je sais aussi que beaucoup d'haïtiens au Canada, un peu partout, et oui, qui nous écoutent, sont impatients de voir qu'il y ait un changement pour qu'il y ait un peu de paix et d'unité dans ce pays, parce qu'il y a encore malheureusement trop de souffrance en Haïti. Donc, nous sommes de tout cœur avec vous, Haïti, nous sommes de tout cœur avec toi.
Oh, mes amis, oh, oh, Karimi.
Le groupe Karimi qui vous souhaite bien le bonjour. Vous êtes bien sur CUT 89,5 FM à la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde depuis 34 ans déjà. Une fois de plus, mille merci, merci en pile à tous nos amis de la radio et un grand merci à Sylvanie Lindor, la fondation Sylvanie Lindor, ce groupe qui célèbre son 10e anniversaire, toujours au service des jeunes vulnérables de la communauté noire francophone de la grande région de Toronto. Donc, merci en pile pour tout le travail que vous faites. Et bien sûr, un grand merci aussi à FCASO, le Festival Compazouk de l'Ontario, qui fait un travail extraordinaire pour faire rayonner la culture créole dans toutes ses multiples diversités à travers l'Ontario, mais aussi le Canada. Donc, merci pour vos dons, merci pour votre appui, et surtout à Janine Maillard, qui est sa fondatrice. FCASO à surveiller, madame, monsieur, peut-être cet été. Qui sait, on aura un spectacle virtuel, hein, peut-être. Donc, tranquillement, nous nous approchons de notre objectif fixé à 100 000 dollars. Nous sommes près de 70 000. On a dépassé le cap des 70 000 dollars. Et nous sommes conscients que cette fichue de pandémie est très difficile pour beaucoup d'entre vous. Et voilà pourquoi je veux personnellement exprimer ma profonde reconnaissance à ceux et celles qui, malgré les difficultés de l'heure, année après année, contribuent au succès de la radio. À ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore, je vous invite, madame, monsieur, à visiter www.ciut.fm, www.ciut.fm et cliquez sur le bouton « Donate » et n'oubliez pas de mentionner votre émission préférée, « Popourri Show ». Et parmi nos coups de cœur, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'ailleurs, un groupe qui est nominé au prochain gala des musiques canadiennes, les prix Juno, 50 ans déjà, hein. Et c'est prévu pour le 6 juin prochain sur CBC Radio-Canada. Le Diable à 5, fervent défenseur de la langue française. Le groupe Le Diable à 5, c'est 5 multi-instrumentistes natifs de Ripon en Outaouais, dans l'Est ontarien, dont la principale mission est de faire revivre les soirées festives de musique traditionnelle dans lesquelles ses membres ont grandi. Le Diable à 5, c'est aussi une histoire de famille avec 3 frères, un cousin et un ami qui se partagent à la scène avec une complicité remarquable. Affichant un dynamisme et une présence de scène explosive, les 5 diables embrasent la soirée au son d'une musique énergétique et chaleureuse et résolument rassembleuse. En exclusivité sur CUT 89,5 FM, c'est le coup de cœur de Popourri Show ce dimanche. Le Diable à 5, nominé au prix Juno 2021, dans la catégorie album de l'année, groupe traditionnel, le Diable à 5, debout, un groupe à surveiller et je leur souhaite bonne chance.
C'est un espérant SCP, SCP.
C'est un espérant SCP, mon Dieu.
C'est un espérant d'y trouver un boulot, tout en y pensant, pouvoir gagner son pain. Et même si tout seul en SCP, SCP.
Même si tout seul en
cela provoque des malaises, tout en savoir, je me libère de ces chaînes. À l'auberge, je pars SCP, bien SCP.
À l'auberge, je pars SCP, devant Dieu.
je pars, et rien qui me freine, tout en y marchant, des bons pas au sol, au son du violon STP, pièce suffit,
au son du violon STP, de mon vieux,
au son du violon, il s'exclame à cajou, tout en y convient, branché un peu plié, serait-il pour moi STP, pièce suffit,
serait-il pour moi
pour moi, dès le que vous vous pamiez, elle a répliqué, de moi vous me risiez, s'en alla tombant, est-ce qu'il pire, est-ce qu'il pire,
s'en alla tombant, est-ce qu'il pire, de mon lieu,
en s'en alla tombant, c'est à peine pour y noyer, tout en pleurnichant, aussi c'est misérable, sortir du bois, est-ce qu'il pire, est-ce qu'il pire,
sortir du bois, est-ce qu'il pire, de mon lieu.
Du bois, puis se faire passer un sapin. Comme on dit si bien, la vie c'est plutôt bête. Quand on vient du chantier, est suffit, bien suffit.
Trois femmes à nos côtés, est suffit de mon lieu.
Le Diable à 5, un groupe franco-ontarien nominé au prochain prix Juno Awards le 6 juin prochain à 20h. Ce sera à l'antenne de Radio-Canada et CBC le 6 juin, à ne pas rater. Le Diable à 5, qui a eu l'idée de donner à ce groupe un tel nom? Le Diable à 5. Un bonjour spécial à nos amis qui nous écoutent à Rennes, à Brest, à Plougastel. Ils sont nombreux, et oui, et en Bretagne, bien le bonjour. Je vous rappelle, madame, monsieur, que la fête de la musique s'en vient. Ce sera pour le mois prochain, le 21 juin. Et cette année, exceptionnellement, et Covid oblige, je vous donne rendez-vous pour une édition spéciale le dimanche 20 juin. La fête de la musique. Et bientôt à l'émission, la maison d'édition Prise de Parole nous présentera deux livres absolument merveilleux. Mémoire éclatée, mémoire conciliée, essai sur la Wild West Show de Gabriel Dumont. Et ce sera présenté par notre collaboratrice, autrice, professeure Aurélie Lacassagne, qui en est l'autrice de cet ouvrage. Et donc, je vous rappelle que Aurélie Lacassagne est née à Tours, en France. Elle est professeure, chercheuse en sciences politiques. Elle a travaillé à l'université Laurentienne pendant près de 20 ans. On s'en souvient de son ouvrage « Perspective créole sur la culture, l'identité franco-ontarienne » présenté à cette antenne. C'est un essai sur une prise de parole qui lui a valu le prix « Communication et société » catégorie « Essai ». Le Wild West Show de Gabriel Dumont, un ouvrage collectif. Il y a plusieurs auteurs qui participent. Toute sa vie, Dumont rêvera de raconter dans un spectacle à grand déploiement la lutte des métis pour la reconnaissance de leurs droits. Très prochainement à l'émission.
Nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. Je remercie infiniment Dr. Emmanuel de Puchon-Wortmann, co-autrice du livre « Défis et richesses des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures », un livre que je vous recommande et surtout dédié à tous les enseignants-enseignantes qui sont à l'écoute. Allez sur notre site popourichaud.com, vous aurez accès à tous les liens nécessaires. Je remercie infiniment nos médias partenaires, nos collaborateurs, collaboratrices qui ont participé à cette émission. DJ Devera, merci pour le montage, le mixage et la patience. Ciné Franco, Madame Marceline, bonjour. J'espère que tout va bien. La Fondation Sylvanie Lindor, j'espère aussi que tout va bien. Santé. Maître Peter Bureau, en revenant, merci beaucoup maître d'être des nôtres. Professeur Eddie Bouraoui, merci pour votre message. Ça fait plaisir, j'espère que la santé tient bon. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué si généreusement à notre campagne de financement Le Son de votre Ville. Un grand merci. Allez, je vous laisse sans plus tarder avec le succès de l'heure. Libya de Tikana Dia Fakoly, chanteur ivoirien. 25 ans de carrière, un quart de siècle de musique, d'engagement, de triomphe, de coups durs aussi. Et Tikana Dia Fakoly ne lâche rien. Toujours indigné, véhément, généreux, à la pointe de ce combat qui est toute sa vie. L'Afrique, son unité, son droit à sortir de la misère, de ces politiques qui l'y maintiennent. Contenteur des puissants, incorrigibles, railleur de leurs dérives, aiguillon des bonnes volontés assoupies, il est aujourd'hui le dernier héros musical issu d'une lignée royale coiffée par Fela Kuti et Bob Marley. Eh oui, c'est notre cadeau du dimanche. Allez, prenez soin de vous, de vos proches. Nous arrivons bientôt au bout du tunnel. Prenez votre mal en patience. Bon dimanche, bonne semaine. Que la force soit avec vous. Allez, place à Tikana Dia Fakoly avec Libya. Ciao.
Anotenata bele, anotenata libi bele, anotenata bele, anotenata fancy bele. C'est la manie, la route n'est pas bonne. Pour la malaya meye, sous la malaya meye, yon la malaya meye, la route n'est pas bonne. Yon a malé à veiller, la route n'est pas bonne. Anotenata belé, anotenata libi belé. Anotenata belé, anotenata paransi belé. Mosira mani, la route n'est pas bonne. Mola malé à veiller, sous la malé à veiller. Yon a mal à payer, la route n'est pas bonne. Anoute na ta belé, anoute na ta libi belé. Anoute na ta belé, anoute na ta fanasi belé. Loni mimbana, anga odi farafina ma. Anutena tabele, anutena ta libi bele. Anutena tabele, anutena ta faransi bele. Gosira mani, la route n'est pas bonne. Mola malo ya veye, la route n'est pas bonne. Esclavage moderne,
akera maloya ye anye kominu ye ala yankisi anye kominu ye ala gangisi. Anutena tabele, anutena talibibele. Anutena tabele, anutena tafansibele. Anutena tabele, anutena talibibele. Anutena tabele, anutena tafansibele.